Le monde se divise en deux. Anna. Aujourd'hui, dimanche 4 septembre 2016. Les murs suintaient. L'humidité était partout. L'air empestait le moisi et la pourriture. Allongé sur le sol glacé, à côté d'une flaque d'eau stagnante, Anna respirait faiblement. Ses deux mains étaient menottées à une épaisse tuyau triomphante grise. Ses chevilles ligotées par un cerflex. Un bâillon lui déchirait la commissure des lèvres. Ses bras tremblaient. Ses genoux s'entrechoquaient. Ses flancs étaient ankylosés et perclus de douleur. L'obscurité était presque complète, à l'exception d'un mince filet de lumière pâle qui filtrait d'une fissure dans le toit et permettait de deviner les murs de la prison. L'endroit était un poste électrique ferroviaire, depuis longtemps désaffecté. Une tour de 20 mètres carrés au sol et de plus de 10 mètres de hauteur qui avait autrefois abrité un transformateur EDF. Même calfeutré dans le local de l'ancien transfo, Anna entendait le bruit lointain des trains et de la circulation. Elle était enfermée là depuis presque 3 jours. Inerte, le cerveau embrouillé, elle essaya de se remémorer une fois de plus l'enchaînement des événements qui l'avaient conduite ici. Tout était allé si vite. Trop vite pour qu'elle comprenne le sens de ce qui lui arrivait. À Antibes, tout avait commencé par cette dispute, cet affrontement violent avec Raphaël, qui s'était terminé dans les larmes. L'homme qu'elle aimait n'avait pas été capable d'écouter son secret et l'avait abandonné. Une réaction qui l'avait accablée et anéantie. Depuis qu'elle savait qu'elle portait un enfant, elle ne cessait de se répéter qu'il n'était pas raisonnable de fonder une famille sur un mensonge. Aussi, lorsque Raphaël était revenu à la charge, s'était-elle volontairement moins défendue que d'habitude. Bien qu'elle ait prétendu le contraire dans leur conversation, elle était presque soulagée à la perspective de lui dire la vérité. Encouragée par ses paroles faussement compréhensives, elle avait même brièvement espéré qu'il l'aiderait à surmonter la situation inextricable dans laquelle elle vivait depuis des années. Mal lui en avait pris. Se sentant abandonnée et désemparée, elle avait laissé libre cours à sa colère, renversant la bibliothèque qui, en tombant, avait brisé la table basse en verre. Puis elle avait commandé une voiture pour l'aéroport et était rentrée à Paris. Elle était arrivée chez elle, à Montrouge, vers 1h du matin. En entrant dans son appartement, elle avait tout de suite senti une présence derrière elle. Mais à peine s'était-elle retournée qu'un objet s'était abattu sur son crâne. Lorsqu'elle avait repris connaissance, elle se trouvait prisonnière dans le local d'un garde-meuble. Quelques heures plus tard, une voiture folle avait défoncé la porte du box. Mais ce n'était pas pour la délivrer. Au contraire, c'était pour la placer en détention ici, au terme d'un bref voyage dans le coffre d'un 4x4. Des alentours de cet endroit, elle n'avait pu apercevoir que quelques images fugaces. Une étendue sans fin de terrain vague, cernée d'un enchevêtrement d'autoroutes et de voies ferrées. L'homme qui l'avait conduite ici s'appelait Stéphane Lacoste, mais il travaillait pour le compte d'un certain Richard Angeli. En écoutant leur conversation, Anna avait compris qu'ils étaient flics, et cela ne l'avait pas rassurée. Une autre chose la terrifiait. À plusieurs reprises, Angeli l'avait appelée Carlyle, une identité que personne ne connaissait. Pourquoi le passé refaisait-il surface aussi brutalement? Pourquoi le pire recommençait-il? L'enfermement, l'effroi, le bonheur saccagé. À force de pleurer, elle n'avait plus de larmes. Elle était au bord de l'épuisement. Son cerveau tournait à vide. Elle évoluait au milieu d'un brouillard accablant. Des nappes couleur de cendre qui l'enveloppaient jusqu'à l'asphyxier. La transpiration et la crasse figeaient et collaient ses vêtements. Pour ne pas sombrer, elle se répétait que rien ne serait jamais plus atroce et terrifiant que les 2 ans passés dans l'antre de Kiefer. Le prédateur lui avait tout volé. Son innocence, son adolescence, sa famille, ses amis, son pays, sa vie. Car Kiefer avait bien fini par tuer Claire Carlyle. Pour continuer à exister, elle n'avait trouvé qu'une échappatoire, se glisser dans l'identité d'une autre. Claire était morte depuis longtemps. Du moins, c'est ce qu'Anna avait cru jusqu'à ses derniers jours. Avant de se rendre compte que Claire était une défunte récalcitrante. Une ombre blanche indissoluble avec laquelle elle devrait composer jusqu'à la fin. Un bruit sinistre. celui du grincement métallique de la porte. La silhouette d'Angeli se profila dans la lumière cadavéreuse de l'aube. L'homme s'avança, armé d'un couteau cranté. Tout se passa si vite qu'Anna n'eut même pas le temps de crier. D'un coup de schlasse, Angeli fit sauter les serflex, puis ouvrit les bracelets en acier des menottes. Sans comprendre ce qui lui arrivait, Anna se rua vers la porte et sortit du poste électrique. Elle débarqua dans une friche urbaine, hérissée de fougères, de ronces et d'herbes hautes. Un territoire apocalyptique, semé d'entrepôts abandonnés, de bâtiments industriels tagués, tombant en ruines et mangés par la végétation. Dans le ciel de porcelaine, des grues s'étaient figées dans leurs mouvements. Anna courut à perdre haleine au milieu de ce no man's land. Elle ne remarqua pas qu'Angeli ne la poursuivait pas. Alors Anna courut. Elle courait comme elle l'avait fait une fin d'octobre 2007, à travers la nuit glaciale d'une forêt d'Alsace. Épuisée, à bout de force, elle courait en se demandant pourquoi, au bout du compte, sa vie se réduisait toujours à cela. S'enfuir pour échapper à des fous. S'enfuir pour échapper à un destin funeste et exterminateur. La friche se trouvait à l'intersection de plusieurs axes routiers. Sans doute le périph' et l'autoroute sur la zone de Bercy-Charenton. Anna arriva sur un chantier, où, malgré l'heure très matinale, un groupe d'ouvriers se réchauffait autour d'un brasero. Aucun des travailleurs ne parlait français, mais ils comprirent qu'elle avait besoin d'aide. Ils essayèrent de la calmer et de la rassurer, puis ils lui proposèrent du café et un téléphone portable. Encore haletante, elle composa le numéro de Raphaël. La communication fut longue à aboutir. Lorsqu'il décrocha enfin, il lui dit aussitôt « Je sais qu'ils t'ont libéré, Claire. » Et personne ne te poursuivra plus. Tout ira bien à présent. Toute cette histoire est terminée. » La conversation se poursuivit, hachée, surréaliste. Elle ne comprenait pas ce que Raphaël faisait à New York, ni pourquoi il l'appelait Claire. Puis elle prit conscience qu'il savait. Tout. Qui elle était, d'où elle venait, les chemins qu'elle avait empruntés avant de le rencontrer. Elle prit conscience qu'il en savait même davantage qu'elle, et fut saisie d'un vertige, en même temps qu'un chapelet de nœuds se dénouait dans son ventre. « Tout ira bien à présent », assura-t-il à nouveau. Elle aurait tant voulu y croire.